Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de l'antre du chanteur, dédié à la recherche de votre tessiture vocale. Comment trouver sa tessiture vocale? C'est une question que nombre de chanteurs se posent, que vous soyez débutant ou que vous soyez dans la remise en question par rapport à votre tessiture. Je vous propose dans ce podcast plusieurs pistes pour vous guider et pour vous aider à trouver votre tessiture vocale. Je suis Clotilde Prieur-Blanc, coach vocal, chanteuse lyrique et professeure de chant. Mais tout d'abord, qu'est-ce que la tessiture vocale? Et quels sont les types de tessiture vocale? Ce qu'il faut savoir, c'est que l'on peut définir sa tessiture vocale selon différents paramètres vocaux, dont l'amplitude vocale, qui constitue l'étendue de notes possiblement émises par votre voix, le timbre, qui est donc la couleur de votre voix, qui peut être plutôt sombre ou plutôt claire, la puissance vocale, on distingue les voix légères des voix lourdes, les notes de passage, qui sont des notes pivots où l'on change de mécanisme vocal. Ces notes-là peuvent changer d'emplacement en fonction du type de voix que l'on a. On peut donc repérer la tessiture vocale et le type de voix que l'on a en fonction des notes de passage. On distingue donc différents registres vocaux. Les tessitures vocales sont en effet regroupées et classifiées selon ces paramètres-là, et bien sûr en fonction de la hauteur vocale, selon qu'il s'agit d'une voix grave ou d'une voix aiguë. Pour les voix de femme, on distingue donc, pour la voix la plus aiguë, la voix de soprano. C'est donc la voix de femme la plus aiguë. Ce type de voix se distingue par sa brillance dans le haut médium et dans l'aigu. On peut discerner aussi des nuances dans les types de voix de soprano, qui sont plus ou moins claires ou plus ou moins sombres. À l'opéra et dans la comédie musicale, ce type de voix correspond souvent au rôle de jeune première, d'amoureuse ou de héroïne. C'est souvent les rôles de premier plan. Il y a ensuite la voix de mezzo-soprano, qui est une voix très équilibrée, qui a autant de graves que d'aigus. Ce type de voix constitue un intermédiaire entre la voix de soprano et la voix plus grave encore de femme qui est le contralto. La voix de mezzo est appréciée pour sa chaleur, sa rondeur et l'amplitude de ses graves. À l'opéra et dans la comédie musicale, elle correspond souvent à des rôles plus ambigus et complexes que ceux de la soprano, ou plus âgés, des séductrices, des sorcières, des mères, des nourrices, mais aussi des rôles de travestis, comme celui du jeune chérubin des Noces de Figaro de Mozart. On appelle ça les rôles de pantalon. Ce sont donc des femmes qui jouent les rôles de jeunes garçons. Car le côté juvénile de la voix du jeune garçon est assez évident dans la voix de mezzo-soprano. On peut aussi voir des rôles de méchantes, qui sont attribués à la mezzo-soprano à l'opéra et dans les comédies musicales. Car dans le grave, il y a une connotation un peu maléfique. Et enfin, il y a la voix de contralto, qui est la voix la plus grave de femme. C'est aussi le type de voix le plus rare chez les femmes. Ce type de voix se distingue par son ampleur, la brillance et la puissance de ses graves, sa robustesse et sa chaleur. C'est une voix qui peut aussi avoir des accents un peu masculins, du fait de la puissance de ses graves. À l'opéra et dans la comédie musicale, on attribue souvent la voix grave à la sagesse et à la maturité. C'est pourquoi on retrouve le contralto dans des rôles d'autorité, des comtesses, des baronnes, des vieilles dames, des nourrices, des mères, des sorcières, des magiciennes, et beaucoup d'autres encore. Enfin, pour les voix d'hommes, toujours pareil, je vais procéder par la voix la plus aiguë jusqu'à la voix la plus grave. On distingue le contre-ténor, qui est donc un type de voix particulière pour les hommes, car elle utilise uniquement la voix de fossé. Donc la voix de fossé, c'est la voix de tête chez les hommes. C'est un mécanisme particulier qui utilise la voix de tête. Il s'agit des mêmes registres vocaux que pour les femmes. On dit alors sopraniste, altiste et contraltiste. Ce sont des voix beaucoup utilisées dans la musique baroque, car à l'époque on se rapprochait des voix de castrat pour lesquelles étaient écrits les opéras du XVIIe siècle. Ces voix-là reviennent à la mode et sont utilisées également dans la musique contemporaine. Ils ont un aspect un peu féminin dans la voix, ce qui leur rapproche en miroir de la contralto, puisque la voix de contralto, il y a des accents un peu masculins dans ce type de voix, et pour les contre-ténors, c'est le contraire, il y a un peu des accents féminins, ce qui fait que même parfois, on peut confondre ces deux types de voix. Donc chez les hommes, il y a également la voix de ténor, qui est donc une des voix les plus aiguës pour les hommes. Elle se distingue par sa brillance et son agilité dans l'aigu, la sensibilité de leur timbre, la vaillance avec laquelle l'aigu est amené, et aussi par une couleur très ténor reconnaissable entre toutes. On se souvient de Pavarotti, de Placido Domingo. C'est ce type de voix-là, ténor. Comme pour les sopranos, ils sont souvent distribués à l'opéra dans des rôles de premier plan, de héros, de jeunes premiers ou même de guerriers, l'aigu étant associé à la jeunesse et à l'innocence. La voix de baryton, qui est aussi une voix intermédiaire comme la mezzo-soprano, se distingue par la rondeur de son registre médium et grave, qui est beaucoup plus ample que ceux du ténor. La beauté du registre médium et grave de ce type de voix convient bien au rôle d'autorité, de père, mais aussi à des rôles maléfiques comme les diables, les traîtres et les assassins. La voix de basse, qui peut être basse chantante, profonde ou bouffe, ça s'applique surtout au domaine de l'opéra, ces termes-là. Et comme son nom l'indique, la voix la plus grave chez les hommes. C'est un type de voix où le registre grave a une ampleur que les autres types de voix d'hommes n'ont pas. La voix de basse a un caractère noble et autoritaire, du fait de ses graves. Souvent, les voix de basse incarnent les figures de grands personnages, de monarques, de personnages de maturité, de pères, de magiciens, ou même, tout comme le baryton, de grands méchants et autres diables. Et donc maintenant, comment détermine-t-on sa tessiture? Maintenant que l'on sait à quoi correspondent les tessitures. Eh bien, il y a plusieurs paramètres de la voix à prendre en compte pour déterminer sa tessiture. Tout d'abord, il faut tester l'étendue de votre voix, c'est-à-dire le nombre de notes possibles que vous pouvez produire avec votre voix. Donc pour cela, prenez un clavier et puis testez votre voix sur des vocalises pour voir votre limite dans l'aigu et dans le grave et voir un petit peu l'étendue de votre voix. Bien sûr, cette étendue peut changer en fonction de la technique que vous êtes en train d'apprendre. On peut développer sa tessiture, son étendue, en travaillant sa technique. On peut acquérir plus de notes aiguës et plus de graves. Mais le nombre naturel de notes possibles dans votre voix vous indique l'étendue naturelle de votre voix, sans travail vocal, et peut déjà vous aider à déterminer votre tessiture. Il faut aussi prendre en compte votre timbre. Est-ce que votre voix est plutôt sombre ou plutôt lumineuse? Est-ce que vous avez plutôt un côté dramatique dans votre voix ou plutôt un côté lumineux naturellement, sans travail vocal? Il faut déterminer la puissance vocale. Est-ce que vous avez une voix plutôt agile, légère? Est-ce que vous vocalisez plus facilement et rapidement? Ou bien êtes-vous plus à l'aise sur des longues phrases tenues ou dans des morceaux lents? Vous avez le temps de poser votre voix. Posez-vous ces questions et notez-les sur un papier pour pouvoir déterminer un petit peu les caractéristiques de votre voix et pouvoir envisager de la classer dans une tessiture. Il y a également les registres vocaux. Comment vous gérez les registres vocaux? Est-ce que vous êtes plus à l'aise dans votre registre de voix de tête, naturellement, ou est-ce dans le registre de voix de poitrine? Naturellement, est-ce que vous allez chanter dans un registre de tête ou de voix de poitrine, sans forcément avoir un travail vocal? Vous pouvez déterminer dans quel registre vous êtes le plus à l'aise. Et ça va déterminer si vous avez plutôt une voix encline à aller vers l'aigu ou encline à aller vers les graves. La voix de tête étant associée plutôt au registre aigu et la voix de poitrine au registre grave. Et enfin, un autre paramètre qui est extrêmement important dans la classification des tessitures, ce sont les notes de passage. Où est-ce que se situent vos notes de passage? Les notes de passage, ce sont les notes pivot entre votre registre médium aigu ou médium grave. Ce sont des notes où on sent un léger resserrement de votre gorge, si vous n'avez pas fait un travail vocal pour pouvoir négocier ces fameuses notes de passage. Et donc, elles sont déterminées à une hauteur précise et varient en fonction du type vocal que vous avez. Et cela vous permet de déterminer également quelle est votre tessiture vocale. Une voix de soprano aura plutôt ses notes de passage vers le fa, fa dièse au médium, pour aller vers l'aigu. Une mezzo, quant à elle, aura des notes de passage un peu plus graves, donc vers le mi, plutôt, puisque la voix est plus grave, donc ça s'explique aussi. De même pour les voix d'homme, la voix de ténor a également ses notes de passage vers le fa, fa dièse, et la voix de baryton plutôt vers le ré, mi. Enfin, pour établir votre tessiture vocale naturelle, il est important de viser le confort vocal avant tout. Dans quelle tessiture vous sentez le plus confortable? C'est une question très importante qu'il faut se poser. Même si la voix est fatiguée, dans quelle zone de votre voix êtes-vous le plus à l'aise, sans trop d'efforts techniques? C'est une question à laquelle il faut répondre et qui est extrêmement importante pour pouvoir chanter dans les meilleures conditions possibles, dans la tessiture qui vous convient le mieux, qui vous permettra aussi de ne pas vous fatiguer. Donc j'insiste vraiment sur le confort vocal. Parce que même si vous avez de la technique vocale et que vous pouvez atteindre certaines notes stratosphériques ou des graves très profonds, ça ne veut pas dire que vous êtes soit une soprano, soit une mezzo. Ce qui est important de voir, c'est où votre médium des voix se situe. Parce que c'est la zone médium qui donne le confort de votre voix, qui donne les notes qui vous sont le plus confortables. Et enfin, il y a le type de répertoire et de personnage à l'opéra vers lequel vous êtes attiré. Il faut écouter votre goût aussi. Même si on ne peut pas changer la nature de la voix en tant que telle, souvent il y a un lien entre la voix que l'on a et qui l'on est. C'est un lien psychologique qui se fait avec les graves ou les aigus. Et il y a une connotation dans les aigus et dans les graves qui ont une influence sur qui on est, et surtout c'est qui on est qui a une influence sur notre voix. Ce n'est pas par hasard si on est plutôt attiré vers des figures de jeunes premières ou plutôt de sorcières. Voilà, c'est vraiment important aussi de voir ce côté psychologique. Donc ça prend en compte plutôt le domaine de l'opéra, mais dans la musique actuelle et dans d'autres types de chants, on peut aussi voir ça. Le type de voix que l'on a un caractère par le son, donne un caractère à nos chansons. Il est aussi important de considérer l'âge de votre voix. Quel âge vous avez quand vous chantez? Une voix évolue avec le temps et l'apprentissage de la technique. Et une voix peut évoluer dans les registres et dans les tessitures. Souvent quand on commence, on a une voix plus aiguë. Et puis, avec l'apprentissage de la technique, les années qui passent, la voix, c'est comme le bon vin, elle va prendre de l'ampleur, elle va prendre de la puissance, et aussi, elle peut gagner
en grave et en aigu. Et souvent, avec l'âge, la voix devient un peu plus grave. Ça, c'est ce qui se passe généralement, naturellement. Mais il y a des fois des voix qui, avec l'apprentissage de la technique, débloquent tout le registre aigu et peuvent monter également. Donc il n'y a pas vraiment de règle à cela, c'est vraiment au cas par cas. Pour classifier les voix longues, c'est des fois un problème, puisque comme la voix est longue, on ne sait pas trop quelle partie de la voix on va utiliser et dans quelle tessiture on peut se classer. On peut aussi appartenir à plusieurs tessitures à la fois. Et donc, ça peut être une longue quête de la tessiture. J'en suis moi-même le témoin vivant, parce que j'ai beaucoup cherché avec ma voix. J'ai commencé comme mezzo-soprano, puis après je suis allée dans le registre aigu de soprano, avec l'apprentissage de la technique. J'ai débloqué tout mon registre aigu, donc du coup j'ai pensé à ce moment-là que j'étais soprano. Et en fait, avec le temps, je me suis aperçue également que dans mon confort vocal, j'étais beaucoup plus à l'aise dans les mezzo-soprano, je me fatiguais beaucoup moins. Et en plus de ça, les personnages des mezzo-soprano me convenaient mieux, puisque moi je viens du milieu de l'opéra, donc je parle aussi en termes de personnages théâtraux. Ça a une importance pour moi. Et donc finalement, actuellement, je chante mezzo-soprano. Donc on peut chercher longtemps, et comme j'avais une voix longue, c'est difficile pour moi de savoir où est-ce que j'allais pouvoir classifier ma voix, tout simplement. Et finalement, c'est important aussi de bien classifier sa voix et de ne pas faire n'importe quoi avec les tessitures, même si on a les possibilités techniques de le faire, parce que ça a une incidence sur votre santé vocale. Et j'ai moi-même eu quelques soucis vocaux à cause du fait que je ne chantais pas dans la bonne tessiture. Ça arrive souvent. Donc c'est important aussi de bien écouter son confort vocal. Parce que si on veut aller loin avec sa voix, il faut l'aménager. Donc éviter de la tirailler dans une tessiture qui n'est pas la sienne, de chanter trop aigu ou de chanter trop grave, parce que ça peut avoir une incidence et fatiguer votre voix. Et même si vous en avez les capacités techniques, c'est important de respecter la nature de votre voix. En plus, la tessiture vocale, c'est un petit peu comme les vêtements. Si on prend des vêtements trop serrés, ben on n'est pas à l'aise. Et s'ils sont trop larges, ben c'est pareil, c'est pas génial. Mieux vaut avoir des vêtements à sa taille. Et voilà, c'est pareil pour la voix. Et pour finir, un point et non des moindres, c'est d'écouter beaucoup de types de voix différentes pour pouvoir se rendre compte d'où est-ce que votre voix se situe. Et puis faire des comparaisons avec votre voix. Écoutez plein de chanteurs qui ont des types de voix très différents, des voix aiguës, des voix graves. Comme ça, vous pouvez noter ce qui ressemble à votre voix et ce qui diffère également. Et donc vous pouvez vous rapprocher à ce moment-là du répertoire de tel ou tel chanteur qui vous ressemble et que vous aimez bien. Et pouvoir avoir des repères pour votre voix et vous situer par rapport aux tessitures vocales. Souvent ce n'est pas anodin si on aime bien un chanteur. C'est souvent qu'il y a des choses qui résonnent en vous par rapport à votre propre voix, qui se mettent en résonance et... Voilà, ce n'est pas anodin pour pouvoir choisir votre tessiture. Écoutez beaucoup de chanteurs, écoutez beaucoup de musique, et ça va vous permettre également de vous situer. Pour finir, il y a différentes manières d'appréhender les tessitures vocales, en fonction du style de chant que l'on pratique. Alors moi, je viens de l'opéra, donc j'ai une manière personnelle de voir les tessitures vocales qui est complètement influencée par ce monde-là. Mais il y a aussi une toute autre manière de classer les voix dans la chanson, la musique traditionnelle. Et donc c'est important aussi de noter ces différences par rapport au style de musique que l'on pratique. Donc à l'opéra et en comédie musicale, la tessiture et le caractère des personnages, vous l'aurez compris, vont de pair. On utilise la couleur de la voix et sa tessiture pour déterminer un type de personnage. Donc ça nous aide également à trouver quelle tessiture on veut chanter, parce qu'il y a un lien aussi avec les types de personnages que l'on incarne sur scène. Par contre, dans la chanson et dans la musique traditionnelle, dans le pop rock et le jazz, tous ces types de musique, on adapte plutôt le morceau, on le transpose, si on veut le chanter, à sa tessiture. On se base sur les répertoires d'un chanteur ou d'une chanteuse qui se rapproche de notre voix généralement pour pouvoir choisir nos morceaux. Et je vous le conseille parce que ça aide vraiment à établir quel type de répertoire vous pouvez chanter. Mais vous pouvez également transposer et adapter une chanson que vous adorez à votre tessiture. Pour cela, il faut vraiment bien connaître quelle est votre tessiture, quelle est votre zone de confort, quelles sont les notes que vous pouvez atteindre et celles que vous ne pouvez pas, pour pouvoir vraiment transposer votre morceau et le chanter en étant à l'aise. On peut chanter tous les chants que l'on veut à partir du moment où l'on transpose et on l'adapte à soi. Voilà, j'espère que toutes ces pistes vont vous aider à trouver votre tessiture vocale, ou de moins vous guider dans votre quête. N'hésitez pas à commenter ce podcast et aussi à me faire part de vos interrogations concernant votre recherche de tessiture. Comme vous l'avez vu, j'ai une longue expérience, ayant beaucoup recherché moi-même avec ma voix, et je peux vous apporter mon aide et des solutions pour votre voix. Un petit like sur Facebook me fera chaud au cœur pour continuer l'aventure de mon blog, et n'hésitez pas non plus à vous inscrire à ma newsletter via le formulaire ci-dessous pour ainsi recevoir toute l'actualité, les articles, les podcasts et les dernières vidéos de mon blog. Je vous souhaite plein de belles choses dans votre recherche vocale et vous dis à très bientôt sur l'antre du chanteur.